C'est bientôt Noël. On est content de revoir la famille Jacques. Ils sont tout bronzés, non? Un peu? Si. C'est bien passé? Tout va bien? C'est gloire à Dieu. Voilà, nous allons lire Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, s'il vous plaît. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Il y a quelque temps, je vous ai enseigné que la première création de Dieu, le premier acte que Dieu a posé, c'était de parler. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Jésus-Christ, la parole incarnée, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, est donc le premier-né de toute la création selon Colossiens 1,15. Premier-né de toute la création. Mes frères et sœurs, en tant que fils et filles de Dieu maintenant, en tant que nés de nouveau, c'est-à-dire nés d'eau, je vous rappelle que l'eau dans la symbolique biblique, c'est la parole incorruptible de Dieu, nés d'eau et d'esprit, l'esprit c'est la vie même de Dieu. Quand on nous dit Dieu est esprit, bien sûr Dieu est esprit parce que Dieu est vie. Hein? Nous avons hérité de lui, nous avons donc un pouvoir divin en tant que membre de sa famille, le même que le sien. Nous avons un pouvoir créateur par la parole que nous prononçons. Voyez-vous, Dieu a créé tout par Jésus-Christ, c'est le premier-né de toute la création. Il est la parole manifestée, mais ensuite, dans la création, il soutient tout par sa parole. Est-ce que vous suivez? Tout a été créé par la parole de Dieu. Chaque chose, chaque objet, chaque être vivant, a donc pour origine l'articulation des sons de la parole prononcée par Dieu. C'est fort ça. C'est très fort ça. Tout l'univers qu'il a créé, il est maintenant maintenu, soutenu en ordre par le pouvoir de la parole de Dieu, la parole manifestée de Dieu, la parole prononcée par Dieu, par la parole qui est Jésus qui parle maintenant pour soutenir l'univers entier. Ça revient à dire que tout ce qui est dans la création de Dieu, tout ce qui est dans cet univers, a été fait et est fait de sons qui ont pris de la substance. Chaque son, chaque mot, chaque verbe, chaque adjectif possède la vie et a une substance lorsqu'il est correctement prononcé. Vendredi soir, je vous parlais de la religion, puis je vous disais que la religion, c'est le substitut de la parole. Hein? Si vous n'avez pas écouté cette prédication, écoutez-la, sinon vous allez être un peu perdu. Donc, la religion, c'est le substitut de la parole. Et je vous disais que c'est pour ça que les religions, en fait, ne sauvent pas. Bien sûr, il y a tout dedans, mais ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole, c'est-à-dire Jésus. Jésus fait chair, la parole fait chair, Jésus venant dans ce monde, mourant sur la croix pour nos péchés, ressuscitant, hein, c'est la parole, c'est pas la religion. La religion nous sert à nous unir à la conscience de Dieu, voilà, mais bon, c'est pas la religion qui sauve. S'attacher à une religion, c'est pas ça qui est bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce qui donne la vie. Maintenant, on va étudier cette pensée. Revenons un peu en arrière, du temps de Moïse. Il nous est dit que Moïse, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Vous avez lu ça déjà. En quoi consistait cette sagesse? En quoi consistait cette sagesse? Mes frères et sœurs, cette sagesse-là, c'était la connaissance scientifique que possédaient alors les Égyptiens. C'était leur connaissance scientifique. Vous savez, quand on dit que Pharaon était Dieu, bon, ce n'était pas comme nous l'entendons maintenant, au XXIe siècle, on a une idée de Dieu. À l'époque, ce n'était pas pareil. Il était Dieu aux yeux du peuple, c'est-à-dire il était l'image du Dieu Thoth, THOT en français. Il était l'image du Dieu. Le dépositaire du savoir, du pouvoir divin. Thoth, c'était le Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur de la sagesse. C'était la divinité de l'écriture et de la magie. Voilà ce qu'était Thoth. Il faut étudier un peu plus, hein, mais déjà je vous dis ce qu'il y a en gros. Hein. Et les Égyptiens, ils n'avaient pas de mot pour dire le mot religion. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas, le truc religion. Ils disaient écou, ce qui signifie à peu près, pouvoir magique ou pouvoir créateur. Mais le mot religion. Vous vous rappelez, je vous ai dit que ça vient d'une racine religue qui signifie unir, hein? Unir l'homme à Dieu. Dans cette civilisation égyptienne du temps de Moïse, plus une personne avait de pouvoir créateur, plus il s'approchait des dieux. Et ce pouvoir créateur, il était étroitement lié à la parole et à l'écriture. Très peu de gens savaient lire et écrire. C'était un art sacré. Les Égyptiens y croyaient que les mots écrits, les hiéroglyphes, étaient vivants. Alors, écrire mal ou dégrader un écrit, c'était dégrader le message et ôter le pouvoir de ce message. Par exemple, maintenant, vous avez vu, alors que nous sommes dans le temps de l'apostasie, tout va de travers, même le langage. Vous avez vu les gens comme ils parlent maintenant? Mais moi, je ne parle pas très bien. Il y a des gens qui ont un français extraordinaire. Moi, ce n'est pas terrible, terrible. Mais vous avez des gens, c'est onk. C'est grave. C'est grave. Cette sagesse égyptienne était la science d'alors. C'était ce qu'ils connaissaient, c'était ce qu'ils apprenaient, c'était la science d'alors. On savait que les mots gravés, les mots fixés sur un support, du papyrus ou des choses comme ça, avaient un pouvoir. D'où l'idée des talismans, d'où l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils savaient que les mots avaient plus de puissance quand ils étaient prononcés. Le fait de dire un mot, ils avaient déjà conscience que ça provoquait une vibration. On devait surtout faire attention de ne pas prononcer le nom des dieux. Alors, pour ne pas prononcer le nom des dieux, on connaissait le nom, mais on ne disait pas. On avait inventé des noms. Hein. Par exemple, pour le dieu machin, on disait Shklonk, hein, parce qu'on ne voulait pas prononcer son nom à lui. On disait Shklonk. Ouais. Ils avaient inventé des noms pour chaque dieu, afin que les vrais noms de Dieu ne soient prononcés que dans des cérémonies privées, très sacrées. Et les mots qu'on avait inventés pour désigner ces dieux, les noms qu'on leur avait donnés, inventés, étaient utilisés en public. On pouvait parler librement en disant tel et tel nom. Alors ils croyaient dans le pouvoir des noms qui étaient correctement prononcés. Maintenant, chez les Juifs, parce que Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, beaucoup de choses ont passé dans le milieu des Juifs. Chez les Juifs, on ne prononce jamais le nom de Dieu. Moïse a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. On ne prononce pas le nom de Dieu. On ne l'écrit pas. Et on a aussi inventé ce qu'on appelle le tétagramme. Vous savez ce que c'est le tétagramme? C'est 4 lettres. C'est l'imprononçable nom de Dieu. C'est imprononçable, ces 4 lettres. Et puis vous avez les témoins de Jéhovah qui ont maltraité ce tétagramme. Ils ont dit que c'était Jéhovah, mais ce n'est pas Jéhovah. C'est une faute grammaticale en hébreu. Ce n'est pas possible que ce soit Jéhovah. Ce tétagramme, il se compose de 4 lettres, le yod, le het, le vav et le het. C'est, si vous voulez, ça vous donne, en gros, hein, YHVH. Allez prononcer ça. Moïse, il a été élevé donc dans la science égyptienne. Mais les Égyptiens n'étaient pas les seuls à croire dans le pouvoir des sons, dans le pouvoir des mots et dans le pouvoir des écrits. De tout temps, déjà, en Inde, au Tibet, on pratiquait ce qu'on appelle les mantras. Vous avez entendu parler des mantras? Mantra, ça signifie protecteur de l'esprit, ou ça signifie instrument de pensée. Alors, on prononce des syllabes, vous savez, qui font Om, ça fait une vibration, Om. Vous avez d'autres, alors vous avez des mantras, hein, des phrases sacrées qui ont des pouvoirs spirituels. Ils ont observé des choses. Ils ne le font pas pour rigoler. Ils ont observé que ça crée des choses, ça crée des émotions, ça crée des... Et tout ce que ces gens ont découvert, ça va dans le sens de ce qui est vrai. Ils ont pas des... C'est quand même pas tous des imbéciles, hein? Ils ont découvert des choses magnifiques et alors ils tâtonnent. La Bible nous dit que ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, ils marchent à tâtons, ils cherchent. Mais ils trouvent des choses. Il ne faut pas mépriser ces choses. Vraiment, il y a un pouvoir sacré dans les sons, dans les mots, dans les phrases. Bon, maintenant les scientifiques d'aujourd'hui, ils savent que les mots, ils engendrent des émotions, ils engendrent des idées. Hein. Si je vous dis éléphant, dans votre conscience, vous ne voyez pas la tour Eiffel, vous voyez, hein? Voilà, vous êtes tous à peu près normaux. Et ça crée quelque chose dans votre conscience et voilà, ces émotions, ces images, elles ne peuvent pas être éliminées une fois qu'elles ont été engendrées. C'est là. Et nous savons aujourd'hui que les mots demeurent, après la sexualité, le pouvoir de création le plus puissant. Alors, ce n'est pas étonnant que Jésus dise que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le centenier romain, lui, l'avait compris, il savait bien ce que cela voulait dire. À cette époque, on était beaucoup plus sages que maintenant. Maintenant, on a perdu beaucoup de choses. Et ce centenier romain, il a dit à Jésus, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous vous rappelez de ça dans Matthieu 8:8? Je trouvais dans une autre version, il dit, « Dis le verbe, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. » Dis le verbe. Pas étonnant que Jésus a envoyé ses disciples vers les multitudes, leur disant de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire toutes sortes de miracles, en son nom, en prononçant son nom. Pas étonnant que la Bible nous dise que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en son nom, en prononçant son nom, en glorifiant son nom, parce que son nom, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout mot. Il n'y en a pas de plus puissant. Éphésiens 1:21 nous dit que son nom, le nom de Jésus, est au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Non seulement maintenant, mais dans le siècle à venir, pour l'éternité. Il n'y a rien au-dessus du nom de Jésus. Et quand Jésus nous dit « Je vous ai révélé le nom du Père », étant donné qu'il n'y a pas de nom au-dessus de Jésus, on comprend que le nom du Père, c'est un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, Ésaïe 9. Voilà où est notre pouvoir, voilà où réside notre pouvoir, en Jésus-Christ, pas seulement en Jésus-Christ en tant que personne, mais en Jésus-Christ, son nom c'est sa personne c'est son nom. Si vous dites Michel Janton, vous ne pensez pas à Robert Colero. Si vous dites Robert Colero, vous ne pensez pas à Philippe Navez. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque nom désigne quelqu'un. Et le nom de Jésus-Christ, Jésus, ce n'est pas seulement le nom du coiffeur de ma femme. Il s'appelle Jésus, je ne sais pas quoi. C'est un espagnol. Mais nous disons bien le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. C'est différent. Je vous dis tout ça, et tout ça, c'est du blablabla pour les gens modernes, avec, n'est-ce pas, la science qu'ils peuvent lire dans que sais-je, ou je ne sais quoi, n'est-ce pas. C'est du blablabla. Mais il est temps pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui ne sommes pas du monde, mais qui sommes dans ce monde, il est temps pour nous de reconsidérer ces choses, d'apprendre ces choses, de commencer à les prendre très au sérieux. Nous portons ce nom. Notre frère Alain nous a fait chanter tout à l'heure « Je porte dans mon cœur Jésus-Christ le Seigneur ». Nous portons ce nom. L'esprit, c'est-à-dire la vie de ce nom. La vie de ce nom, c'est l'énergie qui émane de vous. Au temps de Jésus, on ne disait pas énergie, on disait lumière. Maintenant, on sait que la lumière, c'est de l'énergie. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair, il est la lumière du monde, il est l'énergie du monde. Maintenant, il vit en vous. Et cette énergie, elle émane de vous parce que vous portez Jésus-Christ en vous. Et cette énergie, elle fait apparaître l'ordre. Cet ordre qui agit dans le temps, cet ordre qui agit dans l'espace, cet ordre qui agit dans la matière. Nous avons le pouvoir de créer l'ordre par le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir parce que Jésus nous a montré comment transformer l'eau en vin. Le pouvoir de transformation. Il y a des situations, il y a des montagnes, il y a des difficultés, nous avons le pouvoir de transformer. C'est ce qu'au Moyen-Âge, les savants de l'époque, parce que c'était les savants de l'époque, les mages, c'était les savants de l'époque, eh bien, ils cherchaient, ils faisaient l'alchimie. L'alchimie, ils voulaient changer le plomb en or. Nous avons été plus loin que ça. Nous avons compris que par le nom de Jésus-Christ, notre vie morne peut être changée en vie brillante et pétillante, magnifique. Amen. Notre vie qui était du plomb, maintenant elle est de l'or. Parce que nous avons été en contact avec la parole qui a été éprouvée 7 fois dans le creuset. Nous l'avons intégrée et cela nous a donné la transformation. Mais maintenant, ce pouvoir est en nous. Nous pouvons aussi transformer par le pouvoir du nom de Jésus dans la prière. Et dans les commandements que nous formulons, les ordres que nous donnons à la nature, à toutes sortes de choses, aux vies, la vie de la maladie, au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Ce que vous êtes en tant que création, c'est de la vibration. Je vous ai déjà parlé de ça. Le résultat de la parole créatrice de Dieu, voilà ce que vous êtes, le résultat de la parole créatrice de Dieu. Votre corps, votre sang, ça a été créé par Dieu, mais tout, votre corps, votre sang, tout ça, ça a la même origine. Juste, ça vibre différemment, mais ça a la même origine. Même dans la matière, quand on regarde, ça a la même origine. Et à la base, ça vient de la parole créatrice de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté des cantiques. On a chanté « Je porte dans mon cœur ». On a chanté aussi d'autres choses. Il y avait Stéphane au piano. Et il a joué du piano. Et quand il frappe une note, par exemple la note « sol », eh bien, qu'est-ce qu'on entend ? On entend la note « sol ». Formidable. C'est un miracle, hein ? Oui, mais quel sol ? Quel sol ? Tu as combien d'octaves sur ton piano ? 7. Les octaves, c'est à partir de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Après, ça recommence une deuxième octave. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça recommence une nouvelle octave. C'est ça, Simone. Hein, tu es professeur de piano, mais j'ai presque joué puisque je sais ça. Si Stéphane frappe le sol sur la première octave, là tout en bas, ça fait un sol qui est donc très haut. Vous êtes d'accord? C'est un sol, mais c'est un sol. Et puis, s'il frappe le sol de la deuxième octave, c'est toujours un sol. Vous êtes d'accord? On voit bien que c'est un sol. S'il fait la troisième, c'est toujours un sol qu'on entend. Un peu différent, mais c'est un sol. Hein, et puis, jusqu'à la septième. Parce que chacun de ces sols, on les reconnaît, c'est un sol, mais il vibre un peu autrement. Ce qui fait qu'il est plus ou moins grave. Plus ou moins haut, plus ou moins grave. Plus on frappe un sol haut, plus la vibration sera intense, supérieure. Saviez ça? C'est comme ça. Le nombre de vibrations par seconde de la note sol, c'est 384. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu. Hein. Et ça double à chaque octave. Mais c'est toujours un sol, mais ça double, les vibrations doublent. C'est pourquoi on entend, c'est plus grave, c'est autrement, c'est plus haut, c'est autrement. Et s'il y avait plus de 7 octaves à ton piano, on finirait par ne plus entendre la note sol. Mais elle serait toujours là. Mais notre oreille n'est pas faite pour entendre ça. Mais elle serait toujours là. Il y aurait toujours la vibration, il y aurait toujours la note sol, mais c'est nous qui ne sommes pas fabriqués pour pouvoir l'entendre. La note sol existe, mais on n'entend pas. Les chiens, par exemple, ils entendent certaines notes que nous, on n'entend pas. Ce qui fait qu'en ce moment, Potter nous réveille à 3h du matin quand il entend un lapin qui gambade dans le parc. Casse-pied. On va lui greffer les oreilles humaines. Il a une drôle de tête. Hein. Si on pouvait fabriquer un piano avec beaucoup plus d'octaves, écoutez bien, on pourrait arriver à frapper une note qui perturberait les ondes radio. Plus haut encore, on arriverait à perturber les retransmissions de la télévision. Plus haut encore, on pourrait produire de la chaleur. Plus haut encore, au-delà de la 47e octave, on pourrait voir apparaître une lumière rouge. Ça laisse rêveur, n'est-ce pas? Plus haut encore, par exemple, le Do, il produirait de l'hydrogène. Puis la note qui viendrait, la note encore plus haut deviendrait de l'oxygène. Et puis, en faisant un accord, on arriverait à produire de l'eau. Voilà où on en est dans nos recherches scientifiques à l'heure actuelle. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça laisse rêveur, n'est-ce pas? Donc la science n'est pas du tout contre le fait qu'il y a un pouvoir dans les sons. Jésus nous a donné son nom et il nous dit que son nom est au-dessus de tout nom. Le plus puissant nom qui puisse être prononcé, Yeshua. Moi, je vais apprendre comment on dit Jésus en hébreu. C'est certainement plus puissant qu'en français. Il faut le prononcer correctement. Mais le prononcer correctement, je crois que ce n'est pas simplement le prononcer à la juive, Mais c'est de prononcer en harmonie avec l'esprit de ce nom. Avec l'esprit de ce nom, c'est-à-dire, ce nom, c'est la vie même. Vous ne pouvez rien faire en prononçant ce nom si vous êtes un incrédule. Si vous êtes dans le péché, ne croyant pas que Dieu vous a pardonné, vous ne pouvez rien faire, même en prononçant le nom le plus fort qui existe dans toute la création. Simplement parce que vous êtes coupé de la vie, parce que vous ne croyez pas que Dieu est miséricordieux, parce que vous ne pensez pas que Dieu vous a pardonné. Alors vous pouvez dire, prier et dire au nom de Jésus tant que vous voulez. Si dans votre cœur vous ne croyez pas que Jésus a pardonné vos péchés, vous ne pouvez rien faire et le nom reste inutile. Vous le prononcez en vain. C'est ça, prononcer le nom de Dieu en vain. Vous voyez ? Alors, ayez la foi que Jésus vous a pardonné. Le plus grand péché, c'est de ne pas croire que Dieu est capable de pardonner votre péché. C'est ça le plus grand péché. C'est-à-dire la plus grande erreur. Ça vous coupe de toute la puissance de la vie, ça vous coupe de la réussite, ça vous coupe de la santé, ça vous coupe de tout ce qui est bon, de tout ce qui est honorable. Commencez à avoir foi en Dieu, ça vous rétablit dans votre position de fils et de fille de Dieu, qui a un pouvoir, une autorité sur les esprits d'abord. Chassez les démons. Invitez les anges à venir vous aider en demandant à Dieu de les envoyer, pas en demandant aux anges de venir. Ayez la foi que Jésus vous a pardonné. Sans cette foi, vous n'avez aucun pouvoir, aucun, rien. Si vous n'avez pas la foi que Jésus vous a pardonné, vous en êtes simplement à jouer avec le substitut du nom, c'est-à-dire vous jouez aux chrétiens, vous avez une religion. Vous avez une religion, c'est bien la religion. Oh, ça fait du bien d'avoir une religion. Chaque fois que je vais à un enterrement, j'entends ça. Oh, ça fait quand même du bien d'avoir de la religion quand on est dans des chagrins comme ça. Ben oui. Mais c'est de la religion, c'est le substitut du nom. Par Jésus, l'univers a été créé. Hébreux 1:1. Par Jésus, l'univers est maintenu, soutenu. Hébreux 1:2. Pas rien. Par la parole, maintenant, ce que vous êtes, ce que je suis, ce que vous êtes, maintenant, là, aujourd'hui, alors que vous écoutez ce que je vous dis, ce que vous êtes, c'est ce que vous avez créé comme condition dans votre vie. Depuis votre naissance, vous avez créé ce que vous êtes. Vous êtes maintenant, hein, Stéphane, c'est un bodybuilder, moi je suis un gros lard, ça fait rire, merci, c'est gentil. J'ai perdu un peu là en ce moment. On est tous ce qu'on a fait de nous-mêmes. Et si ça ne vous plaît pas ce que vous êtes, vous avez le pouvoir de changer ça. En parlant la parole de foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si ce que vous êtes, ça vous plaît, eh bien maintenez-le, soutenez-le par la parole de foi en Jésus-Christ. Améliorez-le. On n'est jamais parfait, mais c'est déjà, si vous êtes content de votre vie, de ce que vous avez et ce que vous êtes, c'est super. Mais maintenant, vous pouvez l'améliorer encore par la parole de foi, non destructrice, par une parole de foi, ne disant rien de réducteur, par une parole de foi en Jésus-Christ, ne murmurant pas, ne rouspétant pas, ne vous plaignant pas, mais en ayant une parole de foi continuellement et en prononçant les mots les plus chargés de puissance, constructive, positive et créatrice. Évitez les peut-être, évitez les petits, évitez les... Il y a un petit mot religieux que j'aime pas, c'est cheminement. Vous n'êtes pas en train de cheminer. Vous êtes en train de marcher sur un chemin droit, un chemin de rectitude qui vous mène à un but, la vie éternelle. Vous êtes en train de cheminer. Qu'est-ce que vous faites ? Je chemine. J'aime pas, il y a des petits mots religieux comme ça que j'aime pas. Employez des mots puissants. Hein ? Des mots puissants. Vous êtes à l'image de Dieu. Jésus était l'image de Dieu. Il était le reflet de sa gloire. Il était l'empreinte de la personne de Dieu. On vient de lire tout ça dans Hébreux 1:1-2. Si Jésus était l'image de Dieu, le reflet de sa gloire, l'empreinte de la personne de Dieu, que pensez-vous que vous êtes maintenant que vous êtes fils et fille de Dieu? Oh oui, mais moi je peux quand même pas penser que je suis là, l'image de Dieu. Ah bon, tu peux pas? Bon, ben alors voilà. Au revoir. Il faut que tu croies. Il faut que tu croies ça. Ça, c'est parce que ça, c'est la vérité. Tout ce qui est rajouté à la parole de Dieu, c'est mensonge. Si l'ennemi te dit non, mais t'es quand même pas le reflet de l'image de Dieu, arrête cette histoire. Crois que tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que nous sommes depuis que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes l'image de Dieu, nous sommes le reflet de sa gloire, nous sommes l'empreinte de la personne de Dieu. C'est la manifestation de la présence de Dieu sur la terre, dans la chair. Il vit en nous, il vit par nous. Par le pouvoir de l'eau, nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire par le pouvoir de la parole. Par le pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire par le pouvoir de sa vie qui nous a donné la vraie vie, nous sommes vraiment vivants de sa vie éternelle. Alors, apprenons cela, croyons cela et vivons cela et tout ira pour le mieux. Vous serez dans l'harmonie et vous ferez la volonté de Dieu. Merci Jésus de nous aider. Merci Seigneur de nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions ces choses-là. Le monde a déjà compris beaucoup de choses. Ces Égyptiens, il y a des milliers d'années, avaient déjà compris des choses formidables. Les gens du Tibet ont compris beaucoup de choses. Seigneur, permets que tes enfants aussi puissent se réveiller et comprendre la puissance du nom de Jésus, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, le nom qui est le plus puissant de tous les noms qui peuvent être prononcés sur cette terre, et que nous ne le disions pas en vain, d'une façon non correcte, mais que nous le prononcions avec foi et avec cohérence. Merci Jésus. Amen et Amen.